Le 14 décembre, je fis route vers l'île d'Oyolava, dont nous avions eu connaissance 5 jours avant d'atteindre le mouillage qui nous fut si funeste. Monsieur de Bougainville en avait reconnu de très loin la partie méridionale, indiquée sur le plan qu'il a donné de cet archipel. Cette île est séparée de celle de Mauna ou du Massacre par un canal d'environ 9 lieues. Et l'île de Tahiti peut à peine lui être comparée pour la beauté, l'étendue, la fertilité et l'immense population. Parvenus à la distance de 3 lieues de sa pointe du nord-est, nous fûmes environnés d'une innombrable quantité de pirogues chargées de fruits à pain, de coco, de bananes, de canne à sucre, de pigeons, de poules sultanes, mais de très peu de cochons. Les habitants de cette île ressemblaient beaucoup à ceux de l'île Mauna, qui nous avaient si horriblement trahis. Leurs costumes, leurs traits, leur taille gigantesque en différaient si peu que nos matelots crurent reconnaître plusieurs des assassins. Mais j'étais certain que leur colère les aveuglait. Et une vengeance que je n'avais pas cru pouvoir me permettre sur des pirogues de l'île même de Mauna, au moment où j'appris cet affreux événement, ne pouvait être licitement exercée 4 jours après dans une autre île, à 15 lieues du champ de bataille. Je parvins donc à apaiser cette fermentation. Et nous continuâmes nos échanges. Il y régna beaucoup plus de tranquillité et de bonne foi qu'à l'île Mauna, parce que les plus petites injustices étaient punies par des coups ou réprimées par des paroles et des gestes menaçants. À 4 heures après-midi, nous mîmes en panne par le travers du village le plus étendu peut-être qui soit dans aucune île de la mer du Sud, ou plutôt vis-à-vis une très grande plaine couverte de maisons depuis la cime des montagnes jusqu'au bord de la mer. Ces montagnes sont à peu près au milieu de l'île, d'où le terrain s'incline en pente douce et présente au vaisseau un amphithéâtre couvert d'arbres, de cases et de verdure. On voyait la fumée s'élever du sein de ce village, comme du milieu d'une grande ville. La mer était couverte de pirogues qui toutes cherchaient à s'approcher de nos bâtiments. Plusieurs n'étaient pagayés que par des curieux qui, n'ayant rien à nous vendre, faisaient le tour de nos vaisseaux et paraissaient n'avoir d'autre objet que de jouir du spectacle que nous leur donnions. La présence des femmes et des enfants qui se trouvaient parmi eux pouvait faire présumer qu'ils n'avaient aucune mauvaise intention. Mais nous avions de trop puissants motifs pour ne plus nous fier à ces apparences. Et nous étions disposés à repousser le plus petit acte d'hostilité d'une manière qui eût rendu les navigateurs redoutable à ces insulaires. Je suis assez porté à croire que nous sommes les premiers qui ayons commercé avec ces peuples. Ils n'avaient aucune connaissance du fer. Ils rejetèrent constamment celui que nous leur offrîmes et ils préféraient un seul grain de rassade à une hache ou à un clou de 6 pouces. Ils étaient riches des biens de la nature et ne cherchaient dans leurs échanges que des superfluités et des objets de luxe.